Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu.
Sous la Nouvelle Alliance, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints avec assurance d'une manière nouvelle et vivante.
Pendant si longtemps, j'essayais d'atteindre Dieu et je me demandais, « Où es-tu, Seigneur ?» Mais lorsque j'ai entendu le message d'Andrew, c'est comme si la lumière s'était allumée et j'ai su que Dieu était ici, avec nous.
Et maintenant, voilà Andrew.
Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je termine ma troisième semaine à enseigner sur un sujet intitulé « Esprit, âme et corps ». Il est question de votre esprit, c'est-à-dire la partie de vous qui a été changée au moment du salut. Et le reste de la vie chrétienne consiste à apprendre à renouveler votre intelligence, votre âme, et à agir en accord avec ce qu'il s'est passé à l'intérieur de vous, afin que ça se manifeste dans votre corps. C'est donc un enseignement puissant. Il a transformé ma vie, et je crois qu'il peut transformer la vôtre. Je vous encourage à approfondir ces enseignements, à vous les approprier. N'hésitez pas à nous appeler ou à vous rendre sur notre site Internet afin de vous procurer nos différentes ressources. Dans exactement une semaine, à la fin de la semaine prochaine, nous en aurons terminé avec cette série que, selon moi, vous devriez écouter plusieurs fois jusqu'à recevoir ces révélations dans votre cœur. Je suis conscient que cela demande un effort, mais il est nécessaire, car c'est la vérité que l'on connaît qui nous rend libres. Je sais que ces vérités peuvent complètement changer votre vie parce que c'est ce qu'elles ont fait pour moi. Je vous encourage donc à vous procurer nos ressources. Je n'ai pas le temps de revenir sur tout ce que j'ai enseigné, mais il faut comprendre que c'est dans votre esprit que vous avez été sauvé. Votre corps n'est pas sauvé. Votre âme, qui est la partie intellectuelle et émotionnelle de qui vous êtes, n'est pas encore sauvée. Alors c'est certain, il peut y avoir un renouvellement. Vous pouvez placer votre corps et votre âme sous l'influence et le contrôle de votre esprit né de nouveau. Mais l'esprit est la partie de vous qui a été complètement changée. Et Dieu est esprit. Jean 4, 24 dit « Dieu est esprit » et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est par votre esprit qu'il vous faut entrer en relation avec Dieu, car votre esprit est juste et véritablement saint, Éphésiens 4, 24. Vous êtes dans ce monde tel que Jésus est, il n'est pas seulement question du monde à venir, mais de ce monde-ci. Cela n'est vrai que dans votre esprit. Ce n'est pas encore vrai de votre corps physique, mais votre corps sera changé et vous recevrez un corps glorifié. Ce n'est pas vrai non plus dans votre âme. Votre partie mentale et émotionnelle sera changée et un jour vous connaîtrez complètement tout comme vous avez été connu. Mais dans votre corps et dans votre âme, vous n'avez pas encore été changé. C'est votre esprit qui a été transformé. Et selon Hébreux chapitre 10, versets 10 et 14, il a été rendu saint et conduit à la perfection pour toujours. Pas seulement jusqu'à la prochaine fois que vous péchez, mais pour toujours. Votre esprit a été créé en justice et en vraie sainteté, puis il a été scellé, Éphésiens 1, 13, afin qu'aucune impureté ne puisse l'atteindre. Vous n'avez aucune souillure quelconque dans votre esprit si vous êtes né de nouveau. Si ça n'est pas le cas, il vous faut naître de nouveau. Il vous faut recevoir un nouvel esprit afin d'être en relation avec Dieu. Nous en avons déjà parlé. Cette semaine, je me suis penché sur le fait que vous avez maintenant la foi du Fils de Dieu à l'intérieur de vous. Non pas seulement la foi dans le Fils de Dieu, pas uniquement votre foi. Et cela a été pour moi une pierre d'achoppement majeure parce que je croyais que la foi fonctionnait, mais je ne croyais simplement pas en avoir assez. Je croyais que ma foi était inférieure en qualité ou en quantité, par rapport aux personnes que je voyais accomplir de grandes choses. Et je priais, « Oh mon Dieu, j'ai besoin de plus de foi. » Je suppliais Dieu de me donner plus de foi. Et ma vie a été révolutionnée lorsque j'ai découvert qu'à la nouvelle naissance, la foi du Fils de Dieu m'a été donnée. Je n'avais pas besoin de plus de foi. Ce dont j'avais besoin, c'était de commencer à reconnaître ce que j'avais. Philémon chapitre 1, verset 6 dit « Afin que la communication de ta foi puisse devenir efficace, c'est-à-dire commence à fonctionner, par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en vous en Christ Jésus. » Le fait de reconnaître signifie accepter ou admettre l'existence ou la vérité d'une chose. Autrement dit, vous ne pouvez pas reconnaître une chose qui n'existe pas. Le fait même qu'il ait dit que la foi devient efficace par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en vous montre qu'elles sont déjà là. Elles sont déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de plus de foi. Il vous faut simplement reconnaître que vous avez la foi du Fils de Dieu et ensuite apprendre comment elle fonctionne. J'aimerais continuer avec ce dont on parlait dans notre émission d'hier lorsqu'un homme a amené son fils à Jésus. La version Louis II dit qu'il était lunatique, mais ce mot n'a plus la même signification aujourd'hui. Il s'agissait d'une personne, d'un jeune garçon, qui avait des crises d'épilepsie. Et vous pouvez lire le même événement rapporté dans Marc chapitre 9. Le père raconte que l'esprit l'avait jeté dans le feu et dans l'eau. Ces crises pouvaient arriver à tout moment. Donc, quoi qu'il en soit, ils ont amené le garçon à Jésus, qui a chassé le démon, et le jeune homme fut totalement guéri. Et les disciples ont ensuite demandé à Jésus, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Pourtant, ils croyaient, ils avaient déjà chassé des démons. Vous pouvez le lire au 10e chapitre de l'Évangile de Matthieu et dans Luc au chapitre 9, où le même événement est rapporté. C'est la fois où ils sont revenus après que Jésus les ait envoyés. Ils se réjouissaient d'avoir été jugés dignes de souffrir pour la cause du Seigneur. Et ils revinrent aussi tout joyeux que les démons leur soient soumis. Ils avaient donc déjà vu cela se produire, mais cette fois-ci, ils ont fait tout ce qui avait fonctionné dans le passé, mais ils n'ont pas obtenu les mêmes résultats. Et ils ont dit, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus leur a répondu, « C'est à cause de votre incrédulité. » Il n'a pas dit, « C'est à cause de votre peu de foi. » Et je ne vais pas en reparler, je l'ai abordé hier. Je sais que pour certaines personnes, cela pose problème lorsque je vais à l'encontre de certaines traductions. Mais je crois que la version Louis II est exacte sur ce point, parce qu'elle dit que le problème n'était pas leur manque de foi, parce que le reste du verset dit en substance que si votre foi est aussi minuscule qu'un grain de moutarde, cela suffit entièrement. Cela n'aurait donc aucun sens de dire « le problème est que vous avez une petite foi, mais une petite foi est plus que suffisante ». Non, il n'a pas dit que la taille de la foi est ce qui posait problème, mais le fait que l'incrédulité s'en soit mêlée. L'incrédulité réduit à néant, contrebalance, annule la foi. L'incrédulité, c'est la foi, mais à l'envers, voilà ce que c'est. Ce sont des forces opposées et elles s'annulent l'une l'autre. Et notre problème, ce n'est pas que nous n'avons pas la foi, mais que nous avons de l'incrédulité. Pour approfondir ce sujet, j'ai bien plus d'enseignements et de ressources. Au total, cela représente des heures d'apprentissage. Il y a une série que j'ai intitulée « Dureté de cœur » et vers la fin de cette série, je traite ces questions en profondeur. Mais dans le cas présent, que s'est-il passé? Vous ne pouvez pas avoir toutes les informations en lisant seulement Matthieu 17. Il vous faut aussi aller dans Marc chapitre 9. Pour gagner du temps, je vais simplement faire référence à certains de ces éléments. Mais selon ce qui nous est rapporté dans les Écritures, il y a une différence entre la foi où Jésus les a envoyés pour guérir les malades et chasser les démons, et cette fois-ci avec le jeune garçon. Auparavant, il semblerait que tout fonctionnait sans accroc. Apparemment, ils n'avaient qu'à parler et les démons fuyaient. C'est pour cela qu'ils sont revenus en se réjouissant que même les démons leur étaient soumis. Mais avec le garçon épileptique, on peut lire dans Marc chapitre 9 que lorsque le jeune homme vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et il se roulait par terre en écumant. Et je crois que concernant les disciples, la différence entre cette fois-ci par rapport aux fois précédentes où ils avaient réussi à chasser les démons, c'est qu'il y a eu une manifestation physique qui était contraire à ce qu'ils croyaient. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà été témoin d'une crise d'épilepsie. Mais moi, oui. Je me souviens une fois, je faisais partie des chœurs à l'école, nous étions devant tous les élèves, il y avait certainement plus de 2000 personnes. J'étais debout sur scène et une jeune fille juste devant moi avait une crise d'épilepsie devant toute l'école. Nous allions à l'église ensemble et certainement parce qu'elle me connaissait, elle m'avait vu à l'église. Donc juste avant de faire la crise, elle s'est retournée vers moi, elle se tenait juste devant moi et elle s'est retournée avant de s'effondrer dans mes bras. De l'écume sortait de sa bouche, elle se mordait la langue et c'était difficile à regarder. Je vous assure que je ne savais pas quoi faire. C'était la première fois que je voyais une telle chose. Je n'en avais même jamais entendu parler. Ça m'a fait une peur bleue. J'étais totalement désemparé lorsque c'est arrivé. Donc, si vous avez déjà été témoin d'une crise d'épilepsie, vous savez que cela vous incitera à l'incrédulité. C'est vraiment impressionnant. Et dans ce passage, ils avaient essayé de chasser ce démon. Ils lui ont ordonné de sortir au nom de Jésus. Et au lieu de sortir, il s'est emparé de ce garçon qui a commencé à faire une crise d'épilepsie. C'est ce qu'il s'est passé lorsqu'ils l'ont amené à Jésus. Le démon n'a pas immédiatement fui. Au lieu de cela, il s'est manifesté. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant. D'ailleurs, lorsque vous combattez quelque chose, une maladie, un mal ou peut-être quelque chose de démoniaque, eh bien, si les choses empirent après que vous ayez exercé votre autorité, rappelez-vous que Jésus a connu la même chose lorsqu'ils lui ont amené ce garçon. Il est tombé et s'est roulé par terre en écumant. Lorsque les choses empirent, en réalité, c'est un bon signe, parce que le diable aime se cacher, agir sous la surface, causer des problèmes sans être vu. Car s'il est trop visible, les gens risquent de ne plus le tolérer. Mais quand vous parlez à un démon et que tout à coup il se manifeste, c'est le diable. C'est son dernier hurrah. Il essaie d'influencer vos sens. Il essaie de vous pousser à avoir peur, vous pousser à l'incrédulité. Parce que ce que vous voyez se passer sous vos yeux ne correspond pas aux paroles que vous avez prononcées. Donc, en réalité, c'est un bon signe. Cela signifie que le diable a été exposé, qu'il se manifeste et qu'il est en train de sortir. Et bien sûr, Jésus a continué. Il menaça le démon et quand il le fit, le garçon fut guéri et délivré. Mais je crois que le démon qui possédait ce garçon s'est manifesté de la même manière avec les disciples qu'avec Jésus. Et le fait de voir quelque chose qui était totalement contraire à ce qu'ils croyaient a fait qu'ils ont accordé plus d'importance à leurs cinq sens, à ce qu'ils pouvaient voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, qu'à leur foi. Et c'est un problème majeur. Cela nous amène exactement à ce que je vais enseigner la semaine prochaine, à savoir l'opposition entre la chair et l'esprit. La plupart d'entre nous vivons dans ce que la Bible appelle la chair. Nous vivons dans le domaine de l'intellect et des émotions, où nous sommes davantage contrôlés par ce que nous voyons, goûtons, entendons, sentons et ressentons par nos cinq sens que nous le sommes par ce que dit la parole de Dieu. Et être dans la chair a des conséquences. Romains chapitre 8 dit « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » La chair et l'esprit sont opposés l'un à l'autre. Et pour que vous puissiez opérer dans cette foi de Dieu dont nous parlons, il vous faut dépasser la réalité à laquelle vos cinq sens ont accès et commencer à opérer dans le domaine de l'esprit, à croire et à utiliser le type de foi de Dieu qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Ces disciples étaient plus influencés par ce qu'ils voyaient que par ce qu'ils croyaient. Et comment faire face à cela? Si l'incrédulité est le problème, comme l'a dit Jésus, comment la gérer? Eh bien, le verset 21, qui n'apparaît même pas dans la traduction NIV en anglais, vous donne la réponse qui vous permet de surmonter ce type d'incrédulité. Il est dit, mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. La plupart des gens interprètent ce verset comme s'il était question de cette sorte de démon qui ne sortirait que par la prière et par le jeûne, mais ce n'est pas exact. Étudiez cela par vous-même, mais beaucoup de versions qui font apparaître le mot démon dans ce verset ont l'honnêteté de le mettre entre crochets ou parenthèses, car il n'apparaît pas dans les textes d'origine. Ce ne sont pas vos prières et vos jeûnes qui affectent les démons, c'est le nom de Jésus et la foi en son nom. Vous savez, récemment, une personne possédée d'un démon a commencé à crier dans l'une de nos réunions. L'esprit mauvais s'est manifesté et Todd White, qui prêchait lors de cette rencontre, l'a calmement réprimandé et a ordonné à ce démon de se taire, ce qu'il fit. Mais ensuite, une ou deux minutes plus tard, ça a recommencé. Il a dit que quelqu'un autour prie pour cette femme. Et une personne s'est mise à crier et avec beaucoup de sagesse, Todd a expliqué, « Vous n'avez pas besoin d'élever la voix. Ce ne sont pas vos cris qui comptent ou ce que vous pouvez faire, mais c'est le nom de Jésus et la foi que vous placez dans le nom de Jésus. » Et il s'est contenté de parler calmement. Il leur a dit de la regarder dans les yeux et de lui dire combien Dieu l'aimait. Et cette femme a été sauvée, baptisée dans l'Esprit-Saint et délivrée simplement par des gens qui priaient et lui parlaient calmement. Mais vous voyez, il y a des gens qui pensent que certains démons sont plus forts que d'autres et qu'il y a certains esprits mauvais pour lesquels il faut jeûner et prier avant de pouvoir les chasser. Dans les versions King James et Darby notamment, on voit que le sujet de la phrase n'était pas le démon. On retrouve le sujet de la phrase dans la réponse à la question « Pourquoi n'avons-nous pu les chasser ?» Il a dit « C'est à cause de votre incrédulité. L'incrédulité est le sujet. C'est ce dont il parlait et ce genre d'incrédulité ne sort que par la prière et par le jeûne. » Quel est donc le rapport entre la prière et le jeûne et l'incrédulité? À nouveau, l'incrédulité, ce genre d'incrédulité, est venue à cause de ce qu'ils ont vu. Très rapidement, à nouveau, si vous souhaitez obtenir des ressources pour vous aider à aller plus loin, vous pouvez visiter notre site Internet ou nous appeler. Vous pourrez notamment vous procurer mon enseignement sur la dureté de cœur. Il est disponible sous forme de livres, CD et DVD. J'entre dans plus de détails à ce sujet. Mais ce que je vais partager maintenant est mon opinion personnelle, ma propre pensée. Je ne peux pas vous montrer un verset qui le dit dans ces termes exacts, mais par mon étude des Écritures, mes rapports avec les gens, j'ai classé l'incrédulité l'incrédulité en trois catégories. Il y a l'incrédulité qui vient de l'ignorance. Si vous ne connaissez pas une chose, alors vous n'aurez pas la foi pour l'obtenir. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que vous ne connaissez pas, c'est cela qui vous tue. Donc, si vous ne connaissez pas la vérité, si vous ignorez une vérité, il y aura naturellement de l'incrédulité. Par exemple, si vous n'avez jamais entendu dire qu'une personne est ressuscitée d'entre les morts, vous allez naturellement penser, « Eh bien, cela peut-il arriver ?» Parce que vous n'en avez jamais entendu parler, vous n'en savez rien. Vous ne savez pas ce que dit la parole. Cette incrédulité naturelle est d'une certaine manière facile à surmonter, car ce qu'il suffit de faire, c'est de dire la vérité à une personne. Et une fois qu'elle a entendu, Jésus dit en Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Donc voilà comment surmonter cette ignorance qui provoque l'incrédulité. Vous la surmontez en disant la vérité à une personne et une fois qu'elle a entendu la vérité, si elle l'accepte, alors elle peut surmonter ce genre d'incrédulité. Le deuxième type d'incrédulité n'est pas l'ignorance, mais un mauvais enseignement. Si on a enseigné à une personne que les miracles n'arrivent pas aujourd'hui, que Dieu ne fait plus de miracles, que Dieu ne guérit plus, que Dieu ne chasse plus les démons, si on vous a enseigné de façon erronée, eh bien cela provoque l'incrédulité. Et c'est un peu plus difficile à surmonter parce que c'est comme si vous aviez un tableau blanc ou un tableau noir accroché ici et que vous ayez écrit quelque chose dessus qui est recouvert toute la surface. Eh bien, avant de pouvoir écrire autre chose, il vous faut effacer et nettoyer le tableau. Sinon, vous ne pouvez pas écrire ce qui est correct. Si une personne est ignorante, c'est comme un tableau blanc. Vous écrivez simplement la vérité dessus et cette vérité libère. Mais si on leur a enseigné des choses fausses et que cette mauvaise compréhension est écrite dans leur cœur, alors il vous faut d'abord effacer ces choses avant de pouvoir y écrire les bonnes vérités. Comme l'a dit Jésus dans Marc chapitre 7, il me semble au verset 13, ce sont les traditions et les doctrines des hommes qui annulent la parole de Dieu. Si vous avez la tradition et la doctrine des hommes en vous, il vous faut vous y opposer. Mais la solution à ces deux premiers types d'incrédulité est la même. Si une personne est ignorante, il suffit de lui dire la vérité. Si on lui a dit un mensonge et qu'elle a reçu un mauvais enseignement, vous devez l'effacer, mais leur dire la vérité finira par les amener au même endroit. Donc, l'antidote pour ces deux premiers types d'incrédulité est de dire la vérité. Et si la personne renouvelle son esprit et la reçoit, elle peut être libérée de ce genre d'incrédulité. Mais ce type précis d'incrédulité que l'on trouve dans Matthieu chapitre 17 au verset 21 ne sort que par la prière et le jeûne. Comment la prière et le jeûne affectent-ils ce genre d'incrédulité? Je ne pense pas qu'elle soit due à leur ignorance. Ces disciples avaient déjà vu des démons être chassés, donc ils n'étaient pas ignorants. Ils avaient la connaissance et ils avaient déjà reçu l'ordre du Seigneur de chasser les démons. Et ce n'était pas non plus parce qu'on leur avait enseigné de mauvaises choses. Ce n'était pas parce qu'ils fréquentaient une synagogue qui leur disait que Jésus est du diable, de Belzébuth, et qu'il ne fallait pas le suivre. Non, ils avaient rejeté cet enseignement. La cause n'était pas une mauvaise doctrine, mais le simple fait qu'ils aient vu quelque chose qui a affecté leurs cinq sens et qui allait à l'encontre de ce qu'ils proclamaient et croyaient qui allait arriver. Et par exemple, si vous priez pour la guérison d'un cancer et que vous ordonnez à la maladie de disparaître, mais qu'ensuite vous ouvriez les yeux pour vous examiner et que vous avez encore une grosseur, vous avez des douleurs, vous allez automatiquement penser que rien ne s'est passé. C'est tout à fait naturel. C'est ce que j'appelle l'incrédulité naturelle. Vous priez pour que les finances arrivent, et si vous ne voyez pas les fonds arriver à la date prévue, qu'il y a une saisie, que les huissiers s'en mêlent ou autre, vous allez naturellement penser que ça n'a pas fonctionné. C'est donc ce que j'appelle une incrédulité naturelle. Si vous priez pour quelqu'un qui est possédé par un démon et qu'au lieu d'avoir l'air d'aller mieux, il a l'air d'aller moins bien, vous allez naturellement penser, « Eh bien, ça ne marche pas. » Et ces disciples ont cédé à cette incrédulité naturelle. Vous savez ce qu'ils auraient pu faire? En passant du temps à prier et à jeûner, vous pouvez vous enseigner vous-même. Il est écrit dans Hébreux chapitre 5, il me semble que c'est au verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par le fait de l'habitude ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. » Les sens parlent de vos cinq sens, de ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Et vous pouvez les exercer, vous pouvez entraîner vos sens à comprendre qu'il y a plus que ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Il existe un monde spirituel, il y a des réalités spirituelles. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel qui dépassent la capacité de perception de notre cerveau de la taille d'un petit pois. Vous ne pouvez pas les percevoir dans le domaine physique, mais vous pouvez vous entraîner sur ce point. Par exemple, vous commencez à croire pour certaines choses. J'ai commencé à croire que les gens pouvaient être guéris. Et je n'ai pas le temps dans l'émission d'aujourd'hui de vous apporter beaucoup d'exemples, mais je me souviens de la première fois où j'ai prié pour quelqu'un. Rien ne s'est passé. Il semblait que rien ne s'était passé. Et immédiatement, j'ai eu ce type d'incrédulité naturelle qui m'a fait dire « Eh bien, Seigneur, c'était un échec. » Mais avant que cette personne ait eu le temps de rentrer chez elle, elle a fait demi-tour et revenue et a témoigné devant toute l'assemblée qu'avant d'arriver chez elle, elle était complètement guérie. Et ça m'a appris que quelque chose se passait. Même si je n'avais rien vu, il se passait quelque chose et ça a peut-être pris 15 ou 20 minutes pour se manifester pleinement, mais c'était en cours. C'était dans les tuyaux et cela m'a donné une foi qui m'a permis de voir au-delà de mes sens. Donc vous voyez, ce sont les bénéfices de la prière. J'ai passé du temps à prier. Et quand vous jeûnez, cela fait la même chose. Le jeûne ne change pas le cœur de Dieu envers nous. Il ne vous donne pas plus de puissance. Mais ce que le jeûne fait, c'est qu'il change votre cœur envers Dieu. Si vous avez été contrôlé par vos sens, que vous êtes une personne qui n'est influencée que par ce que vous voyez, goûtez, entendez, sentez et ressentez, si vos cinq sens vous dominent, c'est ce que la Bible appelle être charnel. Et si vous êtes ainsi, vous savez que l'une des façons de le briser est en jeûnant. Parce que je peux vous assurer que si vous ignorez votre faim, votre appétit, votre chair se rebellera. S'il y a de la chair et des envies charnelles à l'intérieur de vous, elles feront rapidement surface. Certaines personnes ne peuvent même pas sauter un seul repas. Si vous sautez un repas, vous commencez à avoir des problèmes. Si vous jeûnez pendant un ou deux jours, je peux vous assurer que votre chair va se mettre à hurler. Vos sens vont vous dire « Nourris-moi, nourris-moi ». Et si vous dites « Non, nous allons jeûner », parce que je suis trop dominé et contrôlé par mes sens. Je vais commencer à me laisser contrôler par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vais me concentrer sur le monde spirituel plutôt que sur le monde physique. Si vous prenez une telle décision, vos sens vont se rebeller. Et ils diront, nous allons mourir à l'heure du dîner, le premier jour. Et vous direz, non, vous ne mourrez pas. Et vous persévérez. Eh bien, le deuxième jour, je vous garantis que votre corps se mettra à crier et vous devrez lui dire, écoute mon corps, si tu ne te soumets pas et n'obéis pas, je vais jeûner pendant 3 jours. Votre corps dira, 3 jours, je vais mourir, c'est sûr. Et vous disiez, d'accord, puisque c'est comme ça, 4 jours. Et vous savez quoi? Vos sens finiront par se soumettre, comme il est dit dans Hébreux 5, 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits qui, par le fait de l'habitude, ont les sens exercés. Exercer signifie que vous devez le faire plus d'une fois. Vous devez le faire à répétition. C'est un processus. Et vous pouvez littéralement soumettre vos sens jusqu'à ce qu'ils commencent à prendre conscience que, je suis en train de vivre par la parole de Dieu et non par le pain seulement. Donc, vous pouvez commencer à vous entraîner et à vous exercer dans le temps. Vous savez, je me suis occupé de l'incrédulité par la prière et le jeûne. J'ai vu des gens ressusciter, des yeux aveugles s'ouvrir, et maintenant, lorsque je prie pour une personne, si je ne vois pas de résultat immédiat, eh bien, mes sens sont exercés et savent que quelque chose est en train de se passer. Je ne peux peut-être pas le voir, le goûter, l'entendre, le sentir ou le ressentir, mais il se passe quelque chose dans le domaine spirituel, et je ne laisse pas cette incrédulité s'abattre sur moi. Voici comment se débarrasser de ce type d'incrédulité naturelle. Par le fait de l'habitude, il faut être plus concentré sur le domaine spirituel que sur le domaine physique. Cela portera un coup mortel à votre moi charnel. Je n'ai plus de temps aujourd'hui, mais il y a bien plus à dire sur le sujet et je le fais dans ce livre. Je vous encourage à vous le procurer. Vous pouvez appeler nos bureaux aux heures d'ouverture pour commander nos ressources ou pour la prière. Vous pouvez également aller sur notre site internet et visiter notre boutique en ligne. Vous pouvez aussi nous écrire par email et demandez le lien de téléchargement de cet enseignement que nous vous enverrons gratuitement. Notre présentateur va vous donner plus de renseignements et en attendant la prochaine émission, je vous encourage à réécouter les précédentes et à approfondir ces vérités par vous-même. Je continuerai cet enseignement dans mes émissions la semaine prochaine et je vais partager avec vous certaines choses qui, je vous l'assure, feront une énorme différence dans votre vie si vous pouvez vous en saisir. Voilà les vérités que Dieu a utilisées pour changer ma vie. Profitez-en, écoutez notre annonceur et contactez-nous aujourd'hui.